La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième numéro de la Compagnie des auteurs consacré aux révisions du bac de français 2016. Toute la semaine, de nombreuses émissions de France Culture parlent de la meilleure manière de passer son bac. Et nous ne faisons pas exception ici à la Compagnie des auteurs en évoquant aujourd'hui l'épreuve de français qui aura lieu dans 25 jours. Jusqu'à jeudi, des élèves, des profs et aussi des écrivains seront avec nous pour évoquer les sujets des années passées et en particulier aujourd'hui les sujets donnés aux classes de L en 2011. Alors pourquoi 2011? Eh bien parce qu'y figurait un extrait du texte Le cas Jekyll de l'écrivaine et maîtresse de conférences en littérature à l'Université Paris 8, Christine Montalbetti, et que Christine Montalbetti, eh bien, elle a accepté de nous rendre visite pour participer à ces petites séances de brainstorming pré-examen. Également avec nous pour la deuxième émission consécutive, et je les en remercie d'autant plus, Marie-Sandrine Lamoureux, ainsi que ses élèves du lycée Joliot-Curie de Nanterre, des lycéens de seconde, première et terminale qui s'apprêtent à passer l'épreuve cette année, l'an prochain, ou qui l'ont passé l'an dernier. Hier, nous avons choisi de parler de poésie, nous serons aujourd'hui plongés dans des textes de théâtre, avant le roman demain et les textes d'argumentation jeudi. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs.
Non, je n'en reviens pas.
Ça se voit que vous n'en revenez pas. Ben, c'était un rhinocéros. Ben oui, c'était un rhinocéros. Ben il est loin, il est loin.
Enfin, voyons, c'est inouï. Un rhinocéros en liberté dans les rues de la ville, ça ne vous surprend pas. On ne devrait pas le permettre. Mettez votre main devant votre bouche.
Ça, on ne devrait pas le permettre, c'est dangereux. Ça, je n'y avais pas pensé, mais ne vous en faites pas, nous sommes hors d'atteinte.
Nous devrions protester auprès des autorités municipales. À quoi sont-elles bonnes, les autorités municipales?
Peut-être le rhinocéros s'était-il échappé du jardin zoologique.
Vous rêvez debout?
Je suis assis.
Mais si debout, c'est la même chose.
Il y a tout de même une différence.
Mais il ne s'agit pas de cela.
C'est vous-même qui venez de dire que c'est la même chose d'être assis ou debout.
Vous avez mal compris. Assis ou debout, c'est la même chose quand on rêve.
Oui, ça, je rêve. La vie est un rêve.
Mais vous rêvez quand vous dites que le rhinocéros s'est échappé du jardin zoologique.
J'ai dit peut-être.
Car il n'y a plus de jardin zoologique dans notre ville depuis que les animaux ont été décimés par la peste, il y a fort longtemps.
Alors, vient-il du cirque?
De quel cirque parlez-vous?
Je ne sais pas, moi, d'un cirque ambulant.
Vous savez bien que la mairie a interdit aux nomades de séjourner sur le territoire de la commune. Ils n'en passent plus depuis notre enfance.
Dans ce cas, peut-être était-il resté depuis lors caché dans les bois marécageux des alentours.
Les bois marécageux des alentours. Ah, mon pauvre ami, vous êtes tout à fait dans les brumes épaisses de l'alcool.
C'est vrai.
Un extrait en introduction de la pièce de Ionesco, Rhinocéros, qui faisait partie aussi du corpus de 2011 et dont nous allons donc parler au cours de cette émission. Et dans le corpus de 2011, il y avait donc votre texte, Christine Montalbetti. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on vous a prévenu? On vous avait reçu un coup de fil un jour? On vous a dit que vous allez faire partie du corpus du bac?
Non, je l'ai su, je crois, le jour même, en fin de journée.
Et alors, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça doit être un peu émouvant, non?
Oui, c'est émouvant. Je pense que, c'est à la fois important et joyeux. Je crois que c'est important que le lycée soit à l'écoute de la littérature toute contemporaine, qu'il n'y ait pas de scission comme ça. Et puis en même temps, c'est joyeux. Je crois que c'est joyeux à la fois pour les lycéens, parce qu'il y a un gros travail qui est fait, en particulier au niveau des régions, pour inviter des auteurs dans les classes, pour que ce soit pas un monde lointain, inaccessible, mais qu'il y ait vraiment des dialogues. Et puis c'est joyeux pour les auteurs aussi, parce qu'on sent qu'il y a une écoute qui est précieuse.
Ça fait pas tellement d'années, au fond, qu'on a des auteurs contemporains au bac?
Oui, sans doute. Alors là, je peux pas vous répondre, parce que peut-être... L'enseignante pourrait nous en dire plus.
Alors, Marie-Sandrine Lamoureux, bonjour.
Bonjour, je ne voudrais pas dénoncer mon âge et faire part de ma longue expérience du bac pour dire qu'il y a en effet depuis peu des auteurs contemporains, mais je trouve qu'en effet c'est chouette qu'on montre que la littérature est vivante.
On peut en profiter déjà pour dire bonjour à certains des élèves qui sont là. Vous allez entendre au cours de cette émission les prénoms Rachel, Rémi, Mabinti, Oussama, Amina. Oussama, c'est important qu'il y ait des auteurs contemporains, des gens qui écrivent, que ce ne soit pas que des auteurs morts, au fond, dont on parle dans les cours de français.
Oui, quand même.
Pour quelle raison ?
Je ne peux pas vous expliquer, en fait. Mais je sais que c'est quand même une bonne idée.
Mabinti ?
Oui, je pense que c'est important parce qu'on est plus au contact du texte et on se sent plus captivé, si l'on peut dire comme ça. Parce que, par exemple, le texte, c'est du, le cas Jekyll.
Donc celui de Christine Montalbetti.
Oui, ouais. c'est un texte, enfin, il est représenté un peu partout, on le voit en film, du coup, on a un peu plus d'expérience.
Et le fait que ce soit écrit par quelqu'un qui écrit encore aujourd'hui, est-ce que du coup on le lit différemment ? Est-ce qu'on le travaille différemment ?
Oui, parce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, c'est un peu accessible en fait, par rapport au texte de l'Antiquité par exemple.
En général, ils ressentent une grande admiration pour ces auteurs. Tout de suite, ça a été écrit il y a 3 ans, mais madame, il ou elle est vivant.
Le fait qu'il soit vivant, c'est vraiment quelque chose.
Il arrive à vivre de la littérature. Ah oui, un auteur vivant. Je me rappelle d'un gamin qui m'a dit une fois en début d'année, madame, on ne va pas encore étudier que des morts cette année. Donc c'est important, oui, que ce soit vivant.
Alors Christine Montalbetti, bien vivante ici dans le studio 108 de la Maison de la Radio. Avec vous, il y avait donc deux autres extraits, Rhinocéros de Ionesco, on l'a dit, et puis un extrait d'Amphitryon 38 de Jean Giraudoux. Que vous soyez dans ce corpus-là, est-ce que ça fait sens pour vous ? Est-ce que ça vous semble logique ?
En tout cas, j'avais étudié Rhinocéros en seconde, et je me souviens très bien de ce moment. En fait, c'est vrai que ça avait été une lecture assez importante pour moi, et je l'avais pas relu depuis, donc je l'ai relu pour notre rencontre. Et j'ai été assez frappée de la manière dont la conversation se tissait. En fait, il y a toujours plusieurs conversations simultanées, et la manière dont les répliques s'accrochent les unes aux autres, font des échos ou pas dans ces conversations simultanées. Et je crois que c'est quelque chose qui à l'époque m'avait beaucoup frappée. J'écrivais enfant comme beaucoup d'auteurs, et c'est une époque du coup où je m'étais mise à écrire un peu du théâtre, et je me suis souvenue que j'avais écrit une pièce qui s'appelait Les 26 vides de l'alphabet humain, et c'était justement des personnages qui étaient des lettres et qui conversaient comme ça de manière légèrement absurde, et puis il y avait un personnage en noir qui faisait le fil de ces conversations. Et pour moi, ça entrait en écho aussi avec une fascination que j'avais enfant pour les réunions de famille avec les familles éloignées, les vieilles tantes et les conversations qui me paraissaient très saugrenues, qui se tissaient comme ça, auxquelles j'assistais plutôt muette. Et donc voilà, c'est vrai que cette écriture-là, qu'on a appelée écriture de l'absurde, je pense que c'est quelque chose qui m'a assez hantée quand j'étais adolescente.
Ouais, Christine Lamoureux, vous qui êtes dans Le Secret des Dieux, puisque vous avez participé à des jurys de notation, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne ? Pourquoi est-ce qu'un jour, alors ça va être le ministère, j'imagine, décide qu'on va prendre un texte, le cas de Jekyll, de Christine Montalbetti, plus Giraudoux, plus Ionesco, et qu'on va donner ça comme sujet aux étudiants ?
Je crois que les professeurs qui se réunissent et qui font partie des jurys qui élaborent les sujets essayent de donner sens, de faire une proposition. Il y a déjà plusieurs groupes qui se réunissent, plusieurs propositions, et puis on en retient une. Pourquoi pas celle-là, puisqu'on voit bien le point commun. Enfin, sans aller tout de suite au but, on voit bien le point commun au-delà de la métamorphose entre ces trois textes. Et puis après, toutes ces préparations sont suivies par des réunions très sérieuses où on a les professeurs qui sont convoqués, qui vont être membres de jury. On a des réunions des coordonnateurs.
C'est qui ces professeurs-là ? C'est des professeurs volontaires ?
En général, n'importe quel professeur qui est en lycée, mais ça peut aussi être un professeur de collège, je l'ai vu fréquemment, convoqué pour le baccalauréat. On a à chaque fois un coordonnateur de jury pour que tout le monde s'entende. On a des réunions très sérieuses auxquelles on assiste, des propositions de corriger qu'on va annoter, relire, revoir ensemble pour se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire.
Qui sont très précis déjà ?
Oui, c'est très précis. Il y a vraiment un guide, c'est bien fait. Puis on nous explique quelle posture on doit avoir à l'écrit comme à l'oral. Il y a une première réunion pour récupérer les copies, pareil, on échange beaucoup. Ensuite, on est un petit peu seul devant ses copies. Bon, c'est la loi du métier. Hein. Mais on se retrouve pour rediscuter des notes qu'on a mises, de la fourchette, de ce qui nous aura surpris agréablement ou pas dans les copies. Et puis, voir un petit peu voilà, qu'il n'y ait pas de gros écarts. Parce qu'on demande de voir tout ça quand même avec bienveillance. Mais il y a des attentes très précises. On ne note pas le français, comme certains le croient, à la tête du client. On a vraiment des attentes.
Rémi, par exemple, j'imagine que toi qui es en première, tu te demandes comment on choisit les sujets, comment on note les sujets. C'est utile quand on passe le bac de savoir ce genre de choses.
Oui, ça peut être utile. Puis c'est intéressant de voir en fait qu'il y a des mélanges entre des classiques qui sont étudiés parfois, qui sont étudiés en première ou en seconde, et des œuvres modernes et récentes.
Mais tu sais pas comment est-ce qu'on corrige, par exemple.
Non, ça je sais pas. Je sais juste de la part des professeurs que c'est très énervant à corriger.
Marie-Sandrine Lamoureux.
On peut faire des ateliers de correction de copies. Hein. Moi, je le fais fréquemment en seconde où on a un peu plus de temps. Et d'ailleurs, on est surpris à chaque fois quand on leur demande de corriger leurs camarades. Ils sont presque plus durs que nous. Ou quand, puisqu'on parle de théâtre, quand on fait jouer une scène par des élèves. Et qu'on leur demande, combien vous mettriez et pourquoi, quels sont vos critères de notation. Là, on peut être surpris par leurs critères qui sont très exigeants. Ils sont très exigeants envers eux-mêmes aussi. Hein.
Mais ça veut dire quand même que, logiquement, il ne doit pas y avoir une échelle de notes trop grande et une correction d'un professeur à l'autre trop différente. Parce que vous coordonnez entre vous et vous avez des consignes de correction.
Il ne devrait pas y avoir. Ensuite, on demande aussi d'utiliser toute la fourchette des notes. De pas se limiter. Une excellente copie ne vaut pas 13. Donc il y a des critères qui font qu'une copie va être au-dessus de 15, au-dessus de 16. Qu'il ne faut pas hésiter à le mettre, le fameux 19, la perfection n'existant pas. Bon, ça dépend de chacun. Et... de la même manière, il ne faut pas hésiter si c'est complètement à côté, dans une mauvaise langue, avec une très mauvaise lecture des consignes et un contenu très pauvre, à baisser la note. Ça n'en a que plus de valeur pour ceux qui ont travaillé sérieusement.
Alors Christine Montalvetti, c'est peut-être le moment de parler un peu plus précisément de votre texte, le cas Jekyll. Il faut dire d'abord que c'est un monologue qui est né d'une rencontre avec quelqu'un que vous connaissiez déjà bien, hein, Denis Podalydès. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce texte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Et quel est son lien avec, évidemment, Stevenson et le texte original, Dr. Jekyll and Mr. Hyde ?
Alors effectivement, c'était une commande de Denis Podalydès qui souhaitait incarner Jekyll Hyde, parce que voilà, pour un comédien, c'est formidable de tenter cette expérience, d'incarner deux corps dans le même corps. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire pour le théâtre et que je n'osais pas trop y aller, que je me posais des questions, en particulier sur la question de la répartition de la parole, comment faire pour éviter un régime naturaliste, et pour faire aussi que toutes les voix des personnages concourent vers une voix qui serait la voix du texte. Et donc cette commande m'a libérée à la fois... à la fois parce que j'avais envie d'y répondre et aussi parce que c'était une commande d'un monologue, donc je n'avais plus à me poser cette question de la répartition de la parole, mais à la fois c'était un monologue qui devait être intrinsèquement polyphonique puisqu'il y avait au moins deux voix, celle de Jekyll et celle de Hyde. Alors, je dois dire que je n'avais jamais lu le texte de Stevenson. Et du coup, j'ai travaillé d'une manière... Enfin, il y a eu plusieurs étapes dans le travail. Il y a eu une première étape comme ça, très libre, où plutôt que de lire le texte de Stevenson et de me demander comment j'allais écrire mon propre monologue à partir de cette histoire, je lisais quelques pages, je les laissais comme ça un petit peu mûrir, et j'écrivais, j'amassais du matériau en fait, j'écrivais dans le prolongement. Parfois, je m'apercevais en continuant à lire que j'avais anticipé des choses qui se passaient dans le texte. Mais c'était une espèce de rapport très souple d'accompagnement, comme ça, très agréable. Et puis ensuite, j'ai visionné des adaptations cinématographiques, alors qui s'éloignent elles, beaucoup de l'histoire de Stevenson, parce que on s'y est préoccupé en particulier de féminiser le casting. Donc j'ai vu le film de Mamoulian du début des années 30, le film du début des années 40 de Victor Fleming avec Spencer Tracy, qui intègre Ingrid Bergman et Lana Turner. Et ces personnages féminins, donc on inventait à Jekyll une fiancée et une maîtresse. Et du coup, le débat devenait vraiment un débat moral, mais aussi d'une morale, on pourrait dire, presque bourgeoise, où quand Jekyll était gentil, il s'occupait de sa fiancée. Quand il devenait Hyde, il allait voir une prostituée. Alors que dans le texte de Stevenson, les crimes sont quand même bien plus graves, puisqu'il s'agit de piétiner une petite fille et de tuer un vieillard. Donc j'ai souhaité revenir vraiment aux péripéties du texte de Stevenson, ces deux scènes comme ça très, très violentes.
Alors peut-être que vous pouvez nous lire cet extrait qui a donc été donné en 2011 aux lycéens.
Donc il s'agit du récit de la première métamorphose, puisque c'était le thème de ce sujet de bac. Il y eut un soir où je sus que j'étais prêt. Je le tiens dans ma main, ce breuvage trouble et fumant, avec son précipité orange qui le zèbre en volute doucereuse et qui doit me permettre d'opérer physiquement la dissociation de mes pulsions. La potion que j'ai confectionnée, hop, je me la siffle. Ah, my goodness! Cette part-là est presque inénarrable. La douleur que c'est, l'arrachement, l'écartèlement, la réduction. Ce qui me paraît se broyer de mes os, ce qui se ratatine, la souffrance atroce du rétrécissement, la déformation, nuit maudite. Or, aussitôt après la douleur considérable, quelque chose de délicieux se met à me couler dans les veines. Chacune est comme un petit ruisseau tout neuf et riant et qui irrigue de vivifiantes prairies, peintures exquises. Je cours vers ma chambre, je veux me voir dans le miroir de ma coiffeuse. Je gambade avec la même joie, je pense, que les premiers hommes qui s'essayèrent à la bipédie. Mon pas est si sautillant, si léger. La courette me découpe un carré de ciel qui m'est réservé et qui me couvre comme un dais. La lune très grosse entre abondamment dans la pièce et l'éclaire comme en plein jour. Celui que je vois n'est pas fort coquet, pour sûr. Mais ta vilaine face me plaît, comme un autre moi-même. Il y a, dans le mouvement de se reconnaître, je ne sais quelle gratification qui dépasse les considérations esthétiques. Que m'importe cette petite taille, cette difformité vague, puisque c'est moi, enfin, sous un nouveau jour, que jusque-là, je n'avais pu contempler. Mais l'aube va naître. Mes gens grappillent leurs dernières minutes de sommeil. Parviendrai-je à reprendre mon apparence d'avant? Ou bien garderai-je pour toujours ma figure de Hyde? Je traverse la courette dans l'autre sens, vers le laboratoire, avec au cœur un affreux suspense. Non plus sautillant comme tout à l'heure, mais détalant comme un chat inquiet. J'ai établi soigneusement mes calculs. Or, une erreur, n'est-ce pas, peut toujours s'y glisser. Je bois la seconde potion. Sacrebleu, dieu du ciel, londonienne frayeur. Mes os de Hyde cette fois s'étirent, mes muscles s'allongent dans des souffrances terribles. Puis cela cesse. Je me dirige de nouveau, encore haletant, jusqu'à ma chambre, et dans le miroir de ma coiffeuse, je vois qui ? Jekyll, qui souffle comme un bœuf, ses jolis traits un peu tirés, mais en tout point semblables à celui qu'il a été. Utterson, for God's sake, have mercy.
Vous voyez les lycéens qui ont sué sur votre texte vous applaudissent quand même à la fin. Pour bien comprendre le thème, effectivement, de ce bac 2011, qui tournait autour de l'idée de la transformation, et pour répondre ensuite à ce qu'on appelle la question commune, qui est donc la première question auquel les lycéens doivent répondre, je vous propose d'écouter immédiatement Amphitryon 38, l'extrait qui était également donné aux lycéens en 2011.
C'est votre corps entier qui doit être sans défaut. Venez là à la lumière que je vous ajuste votre uniforme d'homme. Au plus près, je vois mal.
Mes yeux vont bien?
Voyons vos yeux. Oh, trop brillants! Ils ne sont qu'un iris, sans cornée. Pas de soupçon de glande lacrymale. Ah, ben peut-être allez-vous avoir à pleurer. Et les regards, au lieu d'irradier des nerfs optiques, vous arrivent d'un foyer extérieur à vous, à travers votre crâne. Ne commandez pas au soleil vos regards humains. La lumière des yeux terrestres correspond exactement à l'obscurité complète dans notre ciel. Même les assassins n'ont là que deux veilleuses. Vous ne preniez pas de prunelles dans vos précédentes aventures?
Mais jamais, j'ai oublié. Ah, comme ceci, les prunelles?
Mais non, non, pas de phosphore. Changez ces yeux de chat. On voit encore vos prunelles au travers de vos paupières quand vous clignez. On ne peut se voir dans ces yeux-là. Mettez-leur un fond.
L'aventurine ne ferait pas mal avec ses reflets d'or.
À la peau, maintenant.
À ma peau?
Trop lisse, trop douce, votre peau. C'est de la peau d'enfant. Il faut une peau sur laquelle le vent est 30 ans soufflé, qui est 30 ans plongé dans l'air et dans la mer, bref, qui est son goût, car on la goûtera. Des autres femmes ne disaient rien en constatant que la peau de Jupiter avait goût d'enfant.
Et leur caresse n'en était pas plus maternelle.
Cette peau-là ne ferait pas de voyage. Et resserrez un peu votre sac humain, vous y flottez.
Oh, mais c'est que ça me gêne. Et voilà que je sens mon cœur battre. Mes artères se gonfler, mes veines s'affaisser. Je me sens devenir un filtre, un sablier de sang. L'heure humaine bat en moi à me meurtrir. J'espère que mes pauvres hommes ne souffrent pas cela.
Le jour de leur naissance et le jour de leur mort.
Très désagréable de se sentir naître et mourir à la fois.
Ce ne l'est pas moins par opération séparée.
As-tu maintenant l'impression d'être devant un homme?
Pas encore. Ce que je constate surtout devant un homme, devant un corps vivant d'homme, c'est qu'il change à chaque seconde, qu'incessamment il vieillit. Jusque dans ses yeux, je vois la lumière vieillir.
Voilà, Amphitryon 38 dans un enregistrement de 1942, un texte que tu commences à connaître un petit peu, Oussama,
oui, tout à fait.
Élève de seconde. Mm-hmm. Donc on commence déjà avec le premier texte, celui de Christine Montalbetti, et celui-là, à se rendre compte qu'il y a une manière de parler de la transformation. Comment est-ce que toi tu analyserais la manière dont Giraudoux parle de cette transformation?
Bah en fait, on constate que dans le texte, en gros, je vous explique un peu l'histoire du texte en fait.
Oui, explique-nous.
En gros, en fait, c'est l'histoire de Jupiter qui veut séduire Alcmène, c'est ça, Alcmène, pardon. Et en fait, on sait que Jupiter à la base c'est un dieu, et en fait, afin de séduire Alcmène, on apprend qu'il n'est plus forcément une perfection, et il a conscience qu'en devenant humain, il sait qu'il ne sera plus quelqu'un de divin. Mais on sait juste qu'il est, c'est un humain d'apparence. Mais il dit qu'il ne mourra pas. Enfin, il le dit qu'il ne mourra. Mais il insiste. En fait, il insiste pour qu'il joue vraiment son rôle d'humain. Afin qu'il puisse vraiment séduire Alcmène.
Christine Montalbetti.
Disons que la transformation de Jupiter ici, je trouve qu'il y a un petit côté Stanislavski dans sa méthode en fait de transformation. Est-ce que pour atteindre l'extériorité d'un homme, il va falloir qu'il éprouve certaines sensations de l'homme, le rapport à la vieillesse, au vieillissement. Alors il le fait trop vite, il l'éprouve trop fort, mais voilà, je trouve qu'il y a un petit côté et c'est une métamorphose contrairement à celle de Deakin dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est un subterfuge, c'est un déguisement, c'est un travestissement, c'est une métamorphose intéressée, celle de Jupiter.
Marie-Sandrine Damoureux.
On est sous un couvert comique, dans un motif très connu au théâtre, celui du déguisement. Sauf que là, évidemment, c'est un dieu, donc le déguisement peut être parfait. On est dans un motif connu aussi, c'est un peu le dieu qui se déguise pour aller séduire une humaine. Et en même temps, voilà, passer de cette perfection du dieu à l'imperfection de l'homme, et à la conscience de ce qu'est un homme. Donc sous le motif d'apparence comique de ce dialogue entre un maître et son serviteur, qui est complètement inversé, puisque c'est le maître qui demande des conseils, on a un sujet un peu plus sérieux. Qu'est-ce qui fait qu'on est un humain? Et comment, petit à petit, Jupiter va, entre guillemets, se mettre dans la peau de l'humain?
Rachel, tu faisais des grands signes. Est-ce que tu voulais prendre la parole?
Alors, oui, c'était pour simplement faire un parallèle entre justement la relation maître-valet. En fait, ça me rappelle tous les conseils que Mercure donne à Jupiter. Ça me fait penser que, en fait, Jupiter ne sait pas où il va. C'est Mercure qui le guide. Et que on peut se demander jusqu'où va la transformation de Jupiter, puisque, en effet, il change son apparence et c'est Mercure qui le guide, puisque ce sont ses yeux à lui qui permettent de voir à quoi il ressemble, en fait, physiquement en tant qu'humain. Mais à l'intérieur, dans la lecture, on peut remarquer que il a conscience, progressivement il prend conscience de ce que c'est qu'être un homme, mais jusqu'où va cette transformation, voilà, quelles sont les limites.
Et ça n'a pas l'air très très sympa hein, pour lui de devenir un homme. Hein. Donc déjà, pour prendre conscience, je me répète, je vais mourir. Et puis après, il faut qu'il ajuste son cerveau. Et puis après, il faut qu'il prenne une certaine dose d'orgueil et de prétention. Et quand il a atteint cette dose d'orgueil et de prétention, eh ben ça y est, il est tout à fait humain.
Donc alors, si on voulait répondre à la question commune, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme axe du corrigé? On pourrait peut-être rappeler la question commune et après donner
alors,
les axes
du corrigé. Alors la question commune, c'était comment l'écriture de ces trois textes de théâtre rend-elle compte du processus de transformation des personnages?
On va lire le troisième tout de suite, mais on a déjà des axes.
Voilà, et puis, en effet, on a... dites-nous, parce que si on était en classe, je vous poserais la question. Alors, ma Binti...
Je donnerais plusieurs axes. Par exemple, la métamorphose en tant qu'humain, enfin la métamorphose intérieure, et le fait que ce soit physique et le fait que ce soit mental aussi. Et par exemple, pour Jupiter, la métamorphose, elle est à la fois physique, son passage du statut de Dieu au statut d'humain et donc de mortel, comme celui de Jekyll aussi, qui passe, mais sauf que celle-ci, elle est intérieure cette fois, sa métamorphose. Vu que c'est déjà un humain, et en fait c'est une métamorphose entre lui-même, une phase, en fait il révèle au jour une autre phase cachée de lui-même.
Je ferais Rachel. Plutôt, en fait il y a une grande différence entre le texte de Amphitryon 38 de Jean Giraudoux et les deux autres textes, donc le cas de Jekyll et Rhinocéros, parce que dans les deux derniers textes, donc Rhinocéros et le cas de Jekyll, on parle de la transformation d'un homme en monstre, ou du moins... une transformation extérieure, puisque on se demande si l'intérieur a été transformé ou bien s'il était déjà comme ça à la base. Au contraire, dans Amphitryon 38, c'est un dieu qui se transforme en homme. Donc déjà, il y a une certaine différence, puisque...
Puis en plus, dans Rhinocéros, c'est inéluctable. Il est définitivement hors des humains.
Ça, on va l'entendre tout à l'heure. Mais moi, quand même, je me pose une question, parce que si on décide de prendre le commentaire ensuite qui porte sur Giraudoux, on risque d'avoir déjà donné des réponses dans la question commune. Donc ça se recoupe quand même un petit
c'est
peu.
C'est vrai que la question de corpus peut guider un petit peu pour les autres questions, en fait, pour le commentaire.
Enfin, guider ou au contraire, prendre de la matière.
Oui, mais on va pas tout dire, parce que la question de corpus, on va y répondre en une demi-heure ou trois quarts d'heure. On va faire attention à bien aller et venir entre les différents textes du corpus, alors que dans le commentaire, on va vraiment se concentrer sur, en l'occurrence, Amphitryon 38, ou un autre texte, si c'est un autre qui avait été choisi. C'est pour ça qu'on recommande de toute façon aux élèves de commencer par la question de corpus. Parce qu'ils vont avoir, dans ce va-et-vient, plein d'idées qui vont leur venir et qui peuvent être utiles aussi pour la dissertation. Après tout, là, comme on parle de texte de théâtre, forcément, il va falloir aborder la question de la mise en scène. Donc forcément, c'est une question qu'on va retrouver si on choisit le commentaire ou si on choisit la dissertation.
Alors on va continuer de parler aussi d'Amphitryon 38, mais c'est peut-être le moment de lire donc le troisième texte, celui de Ionesco. Vous allez le lire à trois voix, Rémi Fralé Didascali, Rachel Tufera Béranger et votre professeur Marie-Sandrine Lamoureux, vous ferez Jean.
Parlez plus distinctement, je ne comprends pas.
Dans une petite ville, les habitants se transforment peu à peu en rhinocéros, métaphore de la barbarie. Béranger, venu rendre à son visite à son ami Jean, assiste à cette transformation.
Parlez plus distinctement, je ne comprends pas, vous articulez mal.
Toujours de la salle de bain.
Ouvrez vos oreilles.
Comment?
Ouvrez vos oreilles, j'ai dit. Pourquoi ne pas être un rhinocéros? J'aime les changements.
De telles affirmations venant de votre part?
Bérangère s'interrompt, car Jean fait une apparition effrayante. En effet, Jean est devenu tout à fait vert. La bosse de son front est presque devenue une corne de rhinocéros.
Oh, vous semblez vraiment perdre la tête.
Jean se précipite vers son lit, jette les couvertures par terre, prononce des paroles furieuses et incompréhensibles, fait entendre des sons inouïs.
Mais ne soyez pas si furieux, calmez-vous, je ne vous reconnais plus.
Il est chaud, trop chaud. Démolir tout ça, vêtements, ça gratte.
Il fait tomber le pantalon de son pyjama.
Que faites-vous? Je ne vous reconnais plus. Vous, si pudique d'habitude.
Les marécages.
Regardez-moi, vous ne me semblez plus me voir. Vous ne semblez plus m'entendre.
Je vous entends très bien. Je ne vous vois très bien.
Il fonce vers Béranger, tête baissée. Celui-ci s'écarte.
Attention!
Pardon!
Puis il se précipite à toute vitesse dans la salle de bain. Béranger fait mine de fuir vers la porte de gauche, puis fait demi-tour et va dans la salle de bain à la suite de Jean en disant
« Je ne peux tout de même pas le laisser comme cela, c'est un ami !»
De la salle de bain.
« Je vais appeler le médecin, c'est indispensable, croyez-moi !»
Dans la salle de bain.
Si, calmez-vous Jean, vous êtes ridicule. Oh, votre conne s'allonge à vue d'œil. Vous êtes rhinocéros ?
Dans la salle de bain.
« Je te piétinerai !»
Grand bruit dans la salle de bain. Barrissement, bruit d'objets et d'une glace qui tombe et se brise. Puis on voit apparaître Béranger, tout effrayé, qui ferme avec peine la porte de la salle de bain, malgré la poussée contraire que l'on devine.
Alors Marie-Sandrine Lamoureux, qu'est-ce que ce texte ajoute, finalement, aux deux premiers ?
Je dirais que là, on a un résultat et des effets tout à fait différents. On voit bien, d'ailleurs, on a été bien embêtés pour lire le texte.
C'est un texte difficile, et puis vous n'avez pas tellement répété, même pas du tout.
Non, pas du tout. Mais on voit bien que d'un côté, on a cette transformation radicale de Jean, qui quitte le genre humain, et Béranger en face, qui ne comprend pas, qui ne reconnaît pas son ami. Donc on est dans une peur immédiate, dans une émotion de la part du personnage de Béranger, et puis qui en plus ne comprend pas pourquoi Jean est si satisfait de quitter l'humanité. Et puis ce rhinocéros, bon, on voit bien à quoi ça fait référence. Donc même si on connaît pas la pièce, on peut penser donc la bête à cornes qui fonce partout, qui ne réfléchit pas, tête baissée, qui ne pense pas, qui n'est là que pour piétiner.
Christine Montalbetti.
Oui, quelle est la question ?
Qu'est-ce que ce texte ajoute pour vous au corpus sur cette question de la transformation ?
Mais à la fois, c'est une transformation du côté de la bestialité, puis c'est une transformation aussi qui est une menace, même si certains personnages semblent la souhaiter. C'est aussi une transformation qui leur tombe dessus, c'est une transformation inquiétante. Voilà. Alors, du coup, on a cette transformation ludique, ce stratagème de Jupiter. Ici, on a cette transformation menaçante, inquiétante. Et puis, dans le cas de Jekyll, on est dans l'ordre de l'expérience.
Alors, d'habitude, on a toujours une chronique en milieu d'émission. Et aujourd'hui, cette chronique, eh bien, elle prend encore une fois la forme d'un exercice du bac. C'est le récit d'invention. Et c'est une élève de seconde, Amina, qui a travaillé à préparer pour nous cet exercice d'imagination. Est-ce que vous voulez nous le présenter d'abord, Marie-Sandrine Lamoureux, cet exercice-là ?
Alors, on proposait aux élèves l'exercice suivant. Christine Montalbetti, bienvenue, répond à un comédien qui s'interroge sur la façon de jouer cette scène et sur les conditions matérielles de la représentation. Vous rédigerez cette lettre qui doit contenir des indications précises de mise en scène.
Alors, allons-y. Amina, nous t'écoutons.
Cher Paul, je réponds à ta lettre en te donnant quelques conseils pour la mise en scène de ta pièce « Le cas Jekyll ». L'acteur n'aura pas à se métamorphoser physiquement, mais à traduire par ses déplacements, sa gesticule, ses mimiques et ses intonations l'espérance qu'il traverse. L'acteur pourra prendre en alternance un air ahuri, à la limite de la folie, et l'air rassurant d'un médecin. Il devra mimer la douleur physique sans tomber dans le grotesque. Il devra susciter chez le lecteur l'empathie en même temps que l'horreur. L'éclairage pourra sans doute aider à la composition du personnage. Au départ normalement éclairé, la scène pourrait s'obscurcir brutalement et un projecteur pourrait se fixer sur le seul corps de l'acteur, voire seulement sur son visage, lorsque la métamorphose sera totale. Le metteur en scène pourra utiliser des accessoires, comme un miroir réel ou fictif, pour que le personnage admire son double. On pourra animer le récit par des moyens en parallèle. Des projections vidéo, comme par exemple des scènes heureuses et de massacres, qui défileront très vite, et aussi un aparté d'Aïd. La scène se déroulera dans un intérieur du XIXe siècle, à la fois sobre et mystérieux, avec en toile de fond une musique psychédélique rappelant les films d'Hitchcock. Comme le personnage est un scientifique, je pense qu'il pourrait porter une blouse blanche qu'il enlèverait lorsqu'il évoquerait la métamorphose, et qu'il remettrait lorsqu'il reprendrait son calme. L'acteur pourrait tenir à la main une fiole contenant un produit mystérieux et inquiétant qui, par exemple, fumerait. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que le personnage auquel il parle se trouve sur scène. Au contraire, il est plus inquiétant qu'on ne voit pas le notaire. Voilà quelques idées pour la mise en scène de la pièce qui, je l'espère, entraîneront le spectateur dans une aventure diabolique. Très cordialement, Christine Montalbetti.
Vous auriez pu écrire cette lettre, Christine Montalbetti.
En tout cas, il est très, très riche, il est très bien écrit et très riche aussi de suggestions. J'aime beaucoup l'idée de la musique à la Hitchcock. Et j'aime aussi l'idée des vidéos. C'est vrai que ça n'a pas été utilisé dans les deux mises en scène que j'ai vues. Et je pense que ça, oui, ça pourrait donner des choses intéressantes.
Comment est-ce que tu as travaillé ça, Amina? Puisque, en plus, tu es dans seconde, donc c'est même un an avant l'année où tu devras le faire effectivement. Comment est-ce que tu t'y es prise?
Au départ, c'était un peu difficile parce qu'il fallait que vraiment que je me mette dans la peau de la dramaturge. Du coup, en fait, il fallait vraiment que je lise plusieurs fois le texte et que vraiment je me mette vraiment dans l'ambiance. Et après, c'est un peu facile quand on se met vraiment dans l'ambiance. C'est vraiment facile de pouvoir laisser libre à son imagination.
Tu as lu uniquement l'extrait ou est-ce que tu as lu du coup le livre en entier?
Non, j'ai pas lu le livre en entier. Au départ, j'ai lu le texte qu'on m'a donné. Mais après, il a fallu vraiment que je cherche un peu l'histoire de Jekyll. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet pour voir vraiment l'histoire, pour avoir un point de vue assez large. Donc, je me suis dit que sur le coup, pendant l'épreuve du bac, est-ce que je prendrais cette écriture d'invention? Je pense pas, parce que ce serait un peu trop court pour moi. 4 heures. Et en plus, avec le texte, j'aurais pas toutes les... tout le contexte avec, donc c'est un peu difficile quand même.
Marie-Sandrine Lamoureux.
Sauf que Amina aura un an de plus pour se préparer, ouais. Et que quand on étudie le théâtre au lycée, on dit bien texte et représentation. Et du coup, ça incite non seulement à lire des textes de théâtre, mais à voir des captations, à se déplacer pour voir des spectacles, et à ne pas concevoir le théâtre autrement que comme un spectacle vivant. Et là, en l'occurrence, vraiment, sa chronique est réussie. Bon, moi, elle me l'a fait lire avant, donc j'ai eu de la chance, je l'ai découverte avant. Et je crois qu'elle est réussie parce qu'elle tient compte du décor, des déplacements du personnage, du ton de voix, des accessoires, de tout un tas de facteurs pour lesquels Christine Montalbetti n'avait pas donné d'indication, laissant une grande liberté au metteur en scène. Ce qui est rare, il faut bien le dire. Quand on regarde un texte de Beckett, par exemple, on est extrêmement guidé. Après, bon, ben, on sait bien l'importance que prend le metteur en scène et la liberté qu'il peut prendre. En l'occurrence, il y avait une grande liberté autour de la mise en scène de ce texte.
Christine Montalbetti, là-dessus.
Oui, c'est une pièce sans didascalie. Et pour moi, c'était très important. Bon, à la fois, je trouve qu'il y a malgré tout quelque chose d'un peu naïf à écrire des didascalies, parce qu'elles sont là pour être transgressées. Si le metteur en scène ne les transgressait pas, ce serait pas drôle. Mais pour moi, c'était très important aussi de cette idée-là de fournir un matériau, que le texte soit vraiment un matériau, soit une espèce de cœur dynamique et que de cette énergie qu'il contient, soit relayée par l'énergie de la mise en scène et du travail de l'acteur.
Rachel, en terminale.
Je souhaite rebondir sur ce que dit Christine Montalbetti à propos de l'importance de la mise en scène par rapport au texte. Alors, c'est vrai que le texte, étant en option théâtre, je m'y connais un peu. Alors, je pense que le texte... évidemment, fournit pour la plupart des pièces de théâtre le matériau de base au metteur en scène. Seulement, la mise en scène est encore très libre, comme vous le dites. Donc, je déplore un peu que dans un sujet de bac théâtre, on n'ait que des extraits, alors que, par exemple, ceux qui font option théâtre à côté sont un peu plus avantagés, puisqu'ils peuvent avoir étudié, par exemple, l'œuvre, ou simplement l'avoir lu, ou avoir été curieux. Et je trouve que... effectivement, ce sujet d'invention était peut-être un peu court pour... la taille de l'extrait était un peu limitée, en fait.
Donc tu ne l'aurais pas pris, a priori?
Non.
De manière générale, à la lecture de ces extraits qu'on vous propose pour le bac, on a le sentiment qu'ils sortent un petit peu comme ça de nulle part. C'est peut-être pas très facile, et y compris pour le texte de Giraudoux, de saisir un petit peu le contexte et les enjeux, non?
En fait... On ne peut pas, avec un simple extrait, en ne connaissant rien au contexte, à l'auteur, on ne peut pas vraiment saisir les intentions. Donc, demander de faire une mise en scène, demander à un élève de se mettre à la place d'une auteure par rapport à la mise en scène d'une pièce dont on n'a jamais entendu parler auparavant, je trouve que c'est un exercice
difficile.
Oui. Oui, oui, c'est une invention, ça oui.
Et vous avez Marie-Sandrine vu d'autres mises en scène. Justement, invention, c'est là
mais
où
on ne peut
laisse
pas inventer n'importe comment non plus, parce qu'il y a des manières de corriger, vous l'avez dit, qui sont quand même relativement précises.
Oui, mais c'est vrai, je disais, on attend des élèves qu'ils aient vu des captations, qu'ils aient vu des spectacles, qu'ils se soient déplacés, que peut-être, ayant vu d'autres spectacles, ils le transposent. Dans des idées de mise en scène, ils ont forcément vu comment on éclaire une scène, quels accessoires on met. Enfin, c'est pas comme si on leur parlait pas du théâtre depuis longtemps aussi.
Rémi, première S.
Oui, j'avais une question pour Christine Montabetti. Est-ce que durant votre écriture du 4 Jekyll, est-ce que vous avez regardé les adaptations cinématographiques du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais aussi les adaptations plus humoristiques du style de Dr. Jerry, Mr. Love?
Oui, oui, j'ai vu. Alors, les adaptations humoristiques, elles sont très anciennes, puisqu'il y en a même une avec Stan Laurel de Laurel et Hardy, qui est donc un petit film muet, comme ça, très... Il y a aussi un dessin animé. Donc j'avais regardé aussi le film avec Jerry Lewis. Et puis il y a aussi un film de Terence Fisher qui est assez intéressant, parce que le personnage qui est joué par Paul Massey est marié, lui, et sa femme est infidèle. Et il souffre beaucoup de cette duplicité. Et pour lui, le dédoublement, ça devient une sorte d'exigence morale, c'est-à-dire que pour lutter contre la duplicité, il se dédouble.
Ça répond à ta question, Rémi ?
Oui, ça me répond.
Mabinti, pardon, Christine.
Oui, cela dit, pour rebondir sur cette question de la difficulté du sujet, moi j'ai été surprise quand la première fois que j'ai entendu parler de ce sujet. Je trouve que c'est vrai qu'il est difficile. Et puis il est difficile aussi, il est troublant aussi, parce que tous ces élèves qui écrivent Christine, et puis j'ai un peu circulé sur Internet, il y a des corrigés comme ça. Alors il y en a un, c'est je te fais la bise, Christine. Vous, c'est très cordialement, Christine Montalbetti.
Qu'est-ce que vous auriez mis en réalité?
Je t'embrasse, je pense. Mais donc, voilà, il y a cette histoire-là que non seulement c'est un sujet sur le théâtre, mais c'est aussi un sujet sur la question de l'écriture de la lettre, et où on attend effectivement ces petits repères d'écriture épistolaire, bon, qui vont être comme ça gérés de manière différente, mais ça complexifie aussi, je trouve, le sujet.
Mabinti, première S, tu voulais poser une question.
Non, je voulais compléter ce que Madame Lamoureux disait. En fait, pour revenir à ce qu'elle disait par rapport à la difficulté du sujet en soi, moi, je me dis que c'est assez juste, en fait, comme écriture d'invention, parce que si on nous confronte à des trucs, à des sujets assez durs, ça, c'est pour à peu près pouvoir refléter l'intérêt qu'on a porté à l'étude, à ce qu'on a fait durant l'année, parce que si on n'a rien fait pendant l'année et qu'on se retrouve forcément confronté à des textes comme ça, on est un peu perdu, alors que si on a un minimum travaillé, on peut toujours s'en sortir.
Oui, mais pendant l'année, on n'a pas forcément travaillé sur Giraudoux, sur Montalbetti et sur UNESCO.
Sur le théâtre et sur la musique. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans une émission qui propose de réviser le bac, une des petites astuces pour réviser le bac, et en particulier l'objet d'études théâtre, c'est évidemment d'aller voir des spectacles, d'y aller de temps en temps, le plus tôt possible dans sa vie, et de prendre plaisir à aller au théâtre, parce que c'est un spectacle vivant. Pour vous donner un exemple, il y a 3 ans, avec une classe de première L, on a eu une chance incroyable, on est allé voir Cyrano de Bergerac, qu'on étudiait en œuvre intégrale pour préparer l'oral du bac. Et puis, juste derrière, coup de chance, donc on est allé à l'Odéon. Et voilà, Philippe Torreton qui gagne le Molière. Mais mes élèves étaient ravis pour lui et ravis pour eux. Forcément, c'est porteur. Et là, on voit bien dans cette mise en scène de Torreton, qui a fait grand bruit et coulé beaucoup d'encre, qu'il y a des choix résolus. Du metteur en scène, des personnages. Et on peut discuter à partir de ces choix, si on les compare, par exemple, c'est facile, en l'occurrence pour Cyrano, si on les compare à l'adaptation cinématographique de Rapneau ou à une mise en scène plus traditionnelle. C'est ça qu'on attend.
Donc ce que vous nous dites, c'est que en français, on peut vraiment pas bachoter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir toute l'année travaillé et en plus essayer de s'ouvrir à la culture de manière générale. C'est un petit peu ça l'idée.
On peut nourrir culturellement son esprit petit à petit par tous les spectacles auxquels on a assisté.
Compagnie des auteurs sur France Culture, une semaine spéciale puisque nous préparons le bac de français tous ensemble. Il est pour dans quelques semaines maintenant, Marie-Sandrine Lamoureux. Et au cours de l'épreuve du bac de français, il y a donc le commentaire, qui est un peu l'épreuve reine, je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
Il est vrai que les élèves ont tendance à la choisir plus aisément. Parce que ils y sont plus fréquemment entraînés puisqu'il y a déjà les lectures analytiques qui préparent pour l'oral.
Et alors, si on, en l'occurrence en 2011, le commentaire portait sur le texte de Giraudoux, dont on a déjà pas mal parlé, mais comment ferait-on un commentaire sur le texte de Christine Montalbetti, le cas de Jekyll ? Quels seraient les axes ou la manière de réfléchir qu'il faudrait avoir ?
Alors, ce que moi j'aurais imaginé ou
Par exemple, et puis après on fera un tour de table avec les élèves.
Alors déjà, le plus important quand on veut construire un commentaire, c'est de trouver la problématique. Et moi, j'aurais proposé comment le personnage parvient-il à faire éprouver au spectateur et au lecteur ce qu'il ressent durant cette expérience. Et donc dans ce cadre, j'aurais parlé d'abord du récit d'une expérience scientifique. On a une confession sincère et puis on a une volonté d'objectivité de la part du personnage, et puis derrière d'une expérience paradoxale, ou autrement dit, le bonheur d'être temporairement un monstre, parce que d'un côté, on est dans une expérience fantastique et monstrueuse, une métamorphose inquiétante, et d'un autre côté, paradoxalement, le personnage éprouve une sorte de délivrance pendant cette expérience. Il sautille, il est libéré, il se promène. Donc on a une antithèse entre le personnage monstrueux physiquement, et avec des attitudes simiesques, et la liberté qu'il ressent.
Rachel, corrige ton professeur.
Non, pas du tout, je ne me permettrai jamais. Je souhaitais simplement rebondir sur ce que justement Madame Lamoureux vient de dire. C'était, en fait, je me posais une question. Est-ce que, alors, il se transforme en monstre physiquement ? Mais dans l'histoire originale, Jekyll, quand il se transforme en Hyde, il a pleine connaissance de ce qu'il fait. Donc est-ce qu'il se transforme en monstre radicalement ou est-ce qu'il change juste d'apparence ?
Je crois que c'est là qu'on a une ambiguïté, hein, sans vouloir parler à votre place. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la présence de ce texte et ce choix. Dont je suis franchement, je n'y ai pas participé, mais j'en suis très contente parce qu'on est déjà dans un mythe littéraire. On est dans une histoire que chacun peut s'approprier et réécrire et que des auteurs peuvent réécrire avec talent. Et on est dans cette ambiguïté. On ne sait jamais exactement qui parle, à qui avons-nous affaire. Est-ce que c'est au scientifique ou est-ce que c'est au monstre qui est tapis en lui. Et petit à petit, une voix va prendre le pas sur l'autre. C'est ce que Denis Podalydès va réussir à mettre en scène à partir du texte de Madame. Et c'est cette ambiguïté étonnante qui pose une question plus vaste, c'est-à-dire est-ce que chacun d'entre nous a un monstre tapis en soi qu'il refoule ? Comment le faire émerger ? Peut-on... Voilà, ce thème du double, est-ce que vraiment ce n'est pas dangereux que de faire émerger notre double affreux et méchant. Et ça, on le retrouve partout. Encore, voilà, encore un thème qu'on retrouve partout dans la littérature.
Christine Montalbetti, ça vous va, ça, comme analyse ?
Alors, effectivement, la question de l'ambiguïté, elle était au cœur de l'écriture du texte. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on puisse dire « ici, c'est Jekyll qui parle, ici, c'est Hyde », qui est une répartition comme ça simple de la parole, mais qui est toujours ce trouble qui fait qu'au moment où Jekyll parle, on ne sait pas si c'est pas déjà Hyde. Et c'est aussi cette réversibilité des énoncés. C'est-à-dire que même l'énoncé scientifique peut flirter avec la folie. Et quand Jekyll est trop rationnel, alors c'est peut-être déjà Hyde qui, justement, s'engouffre dans cette rationalité. Et puis, sur la question de la part mauvaise, au fond, ce qui m'a intéressé fondamentalement dans le texte de Stevenson, c'est que son idée, c'est que les êtres humains sont hétérogènes. Et que donc, la transformation en Hyde est monstrueuse. Mais au fond, elle est monstrueuse moins parce que Hyde est méchant que parce que Hyde est univoque. Il est univocément méchant. Et si jamais Jekyll s'était transformé dans sa part bonne et qu'il avait été univocément bon, il aurait été aussi monstrueux. Parce que la bonté univoque est aussi monstrueuse. Et ça m'a intéressée parce que si on met le doigt vraiment sur ce point-là du texte de Stevenson, ça permet de sortir aussi des lectures un peu manichéennes de la question du bien et du mal pour s'intéresser à la question univocité-hétérogénéité. Et d'habitude, le monstre, on dit souvent, enfin, le monstre, ce qui est tératogène, c'est ce qui est composite. On est en monstre parce qu'on a une tête de ceci, des pattes de cela. Et là, au contraire, le monstre, c'est celui qui est univoque. Et du coup, ça nous fait repenser aussi à notre statut. Comme tout à l'heure, vous disiez que quand Jupiter se transforme en humain, c'est aussi une réflexion sur ce que c'est qu'un homme. Et qu'au fond, ce qui est beau, c'est justement qu'on est hétérogène, qu'on est tiraillé, qu'on est contradictoire. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse aussi dans le roman, cette question-là de toutes les émotions contradictoires qui nous traversent.
Alors évidemment, c'est difficile pour les élèves d'aller aussi loin, j'imagine, Marie-Sandrine Lamoureux.
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce qu'un homme ? On peut se poser la question. Et
Vous avez des copies aussi fines que ça ?
Ça arrive, en particulier sur Rhinocéros. C'est un texte qui, en général, passionne les élèves.
Alors justement, parlons-en hein, de Rhinocéros. On va peut-être demander d'abord aux élèves qui souhaitent dire un mot sur ce qu'il aurait fait comme commentaire sur Rhinocéros. Des axes, évidemment, parce que vous n'avez pas eu beaucoup le temps de le travailler.
Moi, Rémi sur... Alors, Rhinocéros, j'aurais fait un axe plutôt pré-transformation avec des parallèles avec les... La transformation avant le rhinocéros, c'est-à-dire quand Jean a encore un peu de lucidité d'esprit humain. Et après, j'aurais fait une deuxième partie, on voit totalement sa transformation en bête. On voit la différence avec les trois autres textes où il y a une transformation divine à humain, humain à humain, mais à caractère différent, et là, de l'homme à la bête. Et le deuxième axe aurait été beaucoup plus grand, enfin,
en taille,
conséquent que le premier axe, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus de choses à interpréter, notamment sur les conséquences tragiques d'une transformation.
Très bien, ça m'a l'air pas mal, Marie-Sandrine.
Ah ben là, en effet, hein, dans Rhinocéros, y a cette fameuse maladie, la rhinocérite, qui est évidemment une allégorie, hein. Ils le disent dès le chapeau, des sociétés totalitaristes qui frappent sans possibilité de retour un certain nombre d'humains et qui ne va pas frapper Béranger, qui est pourtant un homme ordinaire. Donc finalement, une question qu'on pourrait se poser, je me rappelle que je l'avais étudiée avec une classe, cette pièce de théâtre, et j'avais posé la question, est-ce que Béranger est un personnage, un protagoniste ou un héros, ou est-ce qu'il acquiert un statut après l'autre au fil de la pièce ?
Rachel.
Je tiens aussi à rajouter que, en fait, on peut établir une opposition entre Béranger et Jean, puisque Jean est un peu le pendant monstrueux, alors que Béranger est un peu le reflet humain, puisque dans la pièce, les deux s'opposent. Béranger la raison, Jean la folie, et également l'humanité et la monstruosité.
Et le mot de la fin, Christine Montalbetti.
Mais justement, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore, c'est le mot d'humour. Et je crois que c'est un mot important, à la fois dans Rhinocéros, où cette histoire est terrible, mais elle est aussi comique, il y a aussi des éléments risibles. Chez Giraudoux, évidemment, il y a une grande légèreté. Et dans le cas de Jekyll, l'humour a aussi un rôle très important, parce que la question c'était aussi comment faire avec ce personnage 19e, ce personnage anglais, et dans toute cette transformation, la nuit maudite, c'est une espèce d'accent hugolien comme ça qu'il se permet, il y a des changements de registre, et voilà, je crois que l'humour aussi était présent de manière différente dans les trois textes.
Très 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 rapidement, Marie-Sandrine.
Alors très rapidement, si un élève choisissait le commentaire, il ne pourrait pas passer à côté de questions de mise en scène. Et moi, évidemment, quand je pense Rhinocéros, je pense à la magnifique mise en scène de Demarcy Mota.
Merci, merci à vous tous. Et on termine comme d'habitude avec de la poésie, pour le plaisir cette fois uniquement, sans notes ni corrigées. C'est avec Jacques Bonafé, il a choisi cette semaine des textes portant sur les animaux.
Bonjour, dans la semaine de la poésie au bestiaire, n'oublions pas les comptines, on sait qu'elles sont pleines d'animaux. Celle de Pierre Coran, comptine pour répondre sans dictionnaire aux gens qui vous sont chers. Un facochère, mon cher, n'est pas un chinchilla ou un chihuahua. Un chouchou, un chouka, ni un machicouli. Un facochère, mon cher, est un facochère, et c'est très bien ainsi. Le tatou n'a pas de dents, il n'a pas de dents du tout. Mais il tâte le tatou, tâte en hâte et tâte tout. Et quand il a tout tâté, les dentés, il se prépare un cocktail de fourmis, de sauterelles, l'engloutit, puis le tatou roule boule dans son lit. Ça fait partie des comptines de Pierre Coran. Comptines pour ne pas chuinter, comptines pour délier les langues à nœuds. Les animaux de personne, nous retrouvons Jacques Roubaud avec le maquis mococo. Le maquis mococo, son kimono ami, pour un goûter d'amis, macaque et okapi. Le macaque vient de Macao, l'okapi de Bamako. Le maquis mococo fait goûter ses amis, pas de macaroni, mais d'un cake au kiwi, d'esquimo au moka et kakis en boko, cardelés de coco, cacao ou coca dans des bols en mica. Qui joue au mikado, dit le maquis mococo. Le macaque dit oui, l'okapi ne dit mot. Le macaque est un coquin, l'acolyte okapi est du même acabit. Le macaque a un coup pour gruger les gogos, rafle tous les copecs du maquis mococo. Oh, mais coxé coxa, dit le maquis mococo. Tout bien est mal acquis, dit le macaque. Dit quoi? Qui, dit l'okapi. Le macaque démasqué par le maquis mococo, pris sa kalachnikov, acquise à Malakoff de Pépé le moco. Quand can il maquilla, c'est kif kif Chicago. Mais le maquis mococo, au menton les boxa, le macaque est KO, l'okapi dans le coma, le macaque dit oui, l'okapi ne dit mot. Ah, mes jolis cocos, comme vous êtes comiques, dit le maquis mococo, saisissant son Kodak pour immortaliser cette scène à jamais en belle et maquis à vendre sur les quais, Conti ou Malaquais, qu'on ne l'oublie plus. Le maquis mococo est né à Mexico, il s'appelle Dudu, à réciter pour demain. Je pense qu'il est temps de revenir à des choses plus sérieuses avec les animaux. Les animaux d'amour de Paul Fournel. Il y avait par exemple le serre-les-fesses. Le serre-les-fesses est un couard, toujours inquiet, toujours trouillard, jamais quiet, jamais peinard. Il craint pour ses grands bois dans les basses branches. Il craint pour ses sabots dans le marigot. Il craint pour son zizi quand il biche. Il craint pour sa panse quand il broute, etc. Mais c'est surtout le bœuf à la coque qui nous intéressait. Il faut compter 3 bonnes minutes pour cuire le bœuf à la coque. Il faut ensuite le planter dans le bœuftier, poser au centre de l'assiette, lui couper la cabèche, y tremper sa mouillette, en manger l'intérieur et garder pour la fin le filet, qui est le meilleur. Il est recommandé de laisser sur le bord de l'assiette les cornes et les écailles de la coquille. Allez, tiens, terminons sur une comptine de Pierre Coran, Libellule. De calice en corolle, libellule glisse, vole, de calice en corolle, libellule glisse, vole et se désole, libellule pleure de n'être pas fleur.
Du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
C'était Jacques Bonafé qui lisait une sélection de poèmes ayant pour thème les animaux. Merci à Christine Mantalbetti. Je rappelle que vos livres sont publiés par POL et notamment le dernier d'entre eux, Plus rien que les vagues et le vent. Merci à vous, Marie-Sandrine Lamoureux, professeure donc de français au lycée Joliot-Curie de Nanterre, ainsi qu'à tous vos élèves. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru en 2015 aux éditions Don Quichotte. Son titre, Je ne capitule pas après les attentats de Charlie Hebdo. À quoi ça sert un prof? Demain, avec Elisabeth Rastoin, professeure au lycée Jeanne d'Arc à Colombes, et avec ses élèves, nous travaillerons sur le corpus du roman. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. Merci à Sophie de Dombarès, Pascaline Bonnet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu comme d'habitude. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook dans un instant. Les révolutions médicales, René Friedman.